Et voici le journal d'Amélie Perrier. Bonjour Amélie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Hollywood, les poings levés. La cérémonie des Oscars a tenu toutes ses promesses cette nuit d'un monde du cinéma plus politique, plus engagé, avec des minorités, de la diversité et des charges pleines d'humour contre le président Trump.
La politique en France, c'est une campagne présidentielle où l'on parle de guerre civile et où l'on conteste le pouvoir des juges. Nous irons au meeting de Marine Le Pen à Nantes hier soir.
En revanche, à gauche, on sort les drapeaux blancs et le pacte de non-agression entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon.
Trop politisé, c'est un reproche formulé contre l'enseignement de l'économie au lycée. La réforme du programme des SES est présentée aujourd'hui.
Et un nouveau départ pour la chaîne iTélé, l'info continue version Bolloré, s'appellera à partir d'aujourd'hui CNews et fait la part belle à un recrutement qui ne donne pas vraiment dans le jeunisme. Politique, résolument politique, ces Oscars. Tout au long de la soirée de remise des statuettes hollywoodiennes, les allusions au président Donald Trump n'ont pas manqué. Bonjour Cécile de Kervas-Doué.
Bonjour.
Notre spécialiste culture, on a suivi ensemble la cérémonie. Alors Hollywood a semblé parler d'une seule et même voix contre le nouveau président américain.
Oui, ça a commencé dès le tapis rouge où plusieurs personnalités nominées ont arboré un ruban bleu en solidarité avec l'ACLU, l'Organisation de Défense des Libertés. Et puis dans le discours d'ouverture, le présentateur Jimmy Kimmel n'a pas ménagé Donald Trump avec son humour grinçant. Les Oscars sont suivis dans 225 pays qui aujourd'hui nous détestent, a-t-il déclaré. Et pour saluer la présence d'Isabelle Huppert, Jimmy Kimmel en a rajouté une louche.
We have friends and colleagues visiting from all around the world tonight. The great actress from France, Isabelle Huppert, is here with us.
Nous avons des amis et des collègues venus du monde entier ici. La grande actrice française Isabelle Huppert est avec nous. Isabelle est nommée pour son rôle dans Elle, mais au nom de tout le monde ici.
We didn't see Elle, but
je veux dire que nous n'avons pas vu le film, mais nous l'avons adoré, vous étiez formidable dedans. Et je suis heureux que l'immigration vous ait laissé entrer.
Et puis très vite, le ton de la soirée est passé du sarcasme à la gravité, avec de nombreux messages à l'adresse du nouveau président des États-Unis. Primé meilleur film étranger pour le client, le réalisateur afghan Asghar Farhadi a boycotté cette cérémonie pour protester contre le décret migratoire du président Trump. Il s'en est expliqué dans une déclaration qui fustige cette mesure inhumaine visant 7 pays à majorité musulmane. Puis le réalisateur du meilleur film d'animation, Zootopie, a défendu l'histoire de son film dans lequel la tolérance, dit-il, est plus forte que la peur de l'autre. Et puis enfin, il y a aussi eu Gabriel Garcia Bernal, l'acteur de Carnet de voyage.
As a Mexican, as a Latin American, as a migrant worker, as a human being, I'm against any form of wall that wants to separate
us. En tant que Mexicain, que Latino-Américain, que travailleur immigré ou en tant qu'être humain, je suis contre toute forme de mur qui tenterait de nous séparer, a-t-il déclaré.
Alors voilà pour les tribunes, Cécile, mais le palmarès lui aussi est très politique. On a annoncé un carton pour la comédie musicale La La Land. L'Académie des Oscars a finalement voulu distinguer des choix plus audacieux, plus engagés.
Et c'est le fiasco final, oui, qui a tout renversé. On s'attendait effectivement à un énième Oscar du meilleur film pour La La Land. Toute l'équipe était venue récupérer le prix quand tout d'un coup, l'un des producteurs a crié « Mais non, il y a une erreur de carton !» C'est Moonlight qui a l'Oscar du meilleur film. Et dans le désordre et la stupéfaction, l'équipe de Barry Jenkins est donc venue récupérer son prix. Le plateau tout blanc de La La Land a laissé la place à un plateau tout noir de Moonlight qui raconte, je vous le rappelle, la vie d'un jeune afro-américain homosexuel dans un quartier difficile. Et si La La Land emporte l'Oscar de la meilleure actrice ainsi que celui de la meilleure musique de film, Manchester by the Sea, celui du meilleur acteur et du meilleur scénario. Cette année, c'est vrai, le palmarès fait la part belle à la diversité avec 2 Oscars des meilleurs seconds rôles pour Mahershala Ali dans Moonlight et pour Viola Davis dans Fences de Denzel Washington et Barry Jenkins, le réalisateur de Moonlight, de rappeler enfin à tous les Noirs qui se sentent abandonnés aujourd'hui, sachez que durant les 4 prochaines années, les artistes et les Oscars ne vous oublieront pas.
Cécile de Kervas-Doué, notre spécialiste culture, merci beaucoup. Et cette petite déception française pour Isabelle Huppert, dont on a parlé à l'instant, elle n'a pas décroché donc la statuette de la meilleure actrice, Emma Stone, donc pour La La Land, qui a été couronnée. La politique en France, c'est une campagne présidentielle avec des accents de plus en plus agressifs, belliqueux. Ainsi, hier, le meeting de Marine Le Pen et sa charge violente contre les magistrats, l'état de droit et le contraire du gouvernement des juges, a-t-elle lancé à la tribune à Nantes. Et réaction à la mise en examen ces derniers jours de plusieurs de ses proches dans l'affaire des emplois fictifs d'assistants parlementaires européens. On l'écoute.
Dans les 5 ans, nous nous donnerons les moyens d'une application des lois, c'est-à-dire du rétablissement de l'état de droit. Je précise que l'état de droit est le contraire du gouvernement des juges, qui constitue une dérive antidémocratique, oligarchique, à l'image des parlements de l'ancien régime qui ont empêché les réformes et conduit à la révolution. La justice est une autorité, pas un pouvoir. Les magistrats sont là pour appliquer la loi, pas pour l'inventer, pas pour contrecarrer la volonté du peuple, pas pour se substituer aux législateurs. Une fonction publique ne peut pas autoriser son titulaire à usurper un pouvoir. Si un magistrat souhaite changer la loi parce qu'elle ne lui conviendrait pas, c'est simple. Il se met en congé et se présente aux élections. D'ailleurs, nombreux sont les magistrats qui l'ont fait sans que personne ne leur en fasse grief. C'est la logique de notre système démocratique.
Voilà Marine Le Pen, des propos recueillis à Nantes par Antoine Maret. À droite également, le ton se durcit. François Fillon, lui aussi aux prises avec la justice. Le parquet national financier a ouvert vendredi une information judiciaire à propos des soupçons d'emploi fictif de son épouse à l'Assemblée nationale. Hier, il a accusé le gouvernement de laisser, je cite, se développer dans le pays un climat de quasi-guerre civile. Il faisait là allusion aux manifestations violentes en marge du déplacement de Marine Le Pen à Nantes et celle autour d'un meeting d'Emmanuel Macron à Toulon il y a quelques jours. La campagne bunkerisée, on en reparle dans le billet politique de Frédéric Saïs, après ce journal. À gauche, en revanche, on semble avoir retrouvé un peu de paix ce week-end. Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon ne feront pas alliance, chacun sa course vers l'Élysée. Bonjour Sophie Delbon.
Bonjour.
La situation s'est clarifiée, les deux candidats ont conclu une sorte de pacte de non-agression.
Plus de petites phrases, mais une bienveillance mutuelle, voilà ce que les deux candidats ont décidé. Car cette discussion est arrivée trop tard, selon Jean-Luc Mélenchon. Il lance dans une interview « Qui pourrait croire à un accord de coin de table sur les sujets qui nous séparent, comme l'avenir de l'Union européenne ? Il s'agit de se préparer à gouverner un grand pays, pas d'un arrangement personnel. Car une alliance mal ficelée aurait pu faire perdre au candidat des Insoumis une partie de son électorat. Et même en cas d'union, les électeurs ne se seraient pas additionnés mathématiquement selon son entourage. C'est la fin donc d'un feuilleton, la fin de ce feuilleton qui permet aux deux candidats de se concentrer sur le cœur de leur stratégie. Un pacte de non-agression pas facile à tenir avec la personnalité volcanique de Jean-Luc Mélenchon. Dans une interview publiée ce matin, il s'est à nouveau demandé si Benoît Hamon irait au bout de la logique qui a expulsé M. Valls, ajoutant que s'il veut recoller les morceaux du PS, il se coupera de ceux qui veulent purger le bilan du quinquennat. Il souligne que sa mission maintenant est de convaincre cette moitié des Français qui n'a pas encore fait de choix de vote. Tandis que Benoît Hamon souhaite se tourner vers tous les Français de gauche, notamment ceux qui souhaiteraient voter Emmanuel Macron ou encore Jean-Luc Mélenchon. Mais pour l'instant, le seul élément qui se confirme, c'est le risque de l'élimination de la gauche dès le premier tour.
Sophie Delpont, merci beaucoup. Benoît Hamon, fort du soutien des écologistes, les électeurs de la primaire ELV ont revoté et approuvé hier l'accord entre le socialiste et leur candidat Yannick Jadot à près de 80% des votes. Trop marqué à gauche, c'est l'une des critiques formulées contre l'enseignement de l'économie dans les lycées français. Trop politisé, trop déconnecté aussi du monde de l'entreprise. Voilà l'avis rendu par l'Académie des sciences morales et politiques qui doit dévoiler aujourd'hui ses propositions de réforme du programme des SES, les sciences économiques et sociales. Prof de SES contre patronat, c'est finalement une vieille opposition quasi historique, Camille Magnard.
En 2008, déjà, le grand patron Michel Pebro avait fustigé des programmes de SES inadaptés, biaisés, en un mot, néfastes. À la tête d'une académie qui compte des membres très libéraux comme Denis Kessler, Jean Tirole ou encore Yvon Gattaz, il revient donc à la charge pour l'économiste de Citigroup, Yann Cottenlem, qui a participé au décryptage des manuels scolaires. Ceci véhicule une vision trop critique du monde de l'entreprise.
Il y a une culture économique en France qui est souvent beaucoup plus critique de l'économie de marché que dans d'autres pays. Les Français, d'ailleurs, investissent peu et les programmes y contribuent.
Pour remédier à ça, l'économiste imagine donc un enseignement qui ferait la part belle à des travaux pratiques.
On pourrait faire des choses très simples qui permettent, de façon ludique d'ailleurs, pour l'élève, de dire tiens, on va faire varier tel ou tel paramètre, on rajoute un peu plus de dettes, un peu moins d'action ou l'inverse, et qu'est-ce qui se passe ? Ouais, des travaux pratiques qui permettent de vraiment simuler dans la réalité, le comportement des entreprises.
Former des cadres et des dirigeants d'entreprise dès la seconde, ce n'est pas franchement la vision des SES portée par Erwan Lenader, président de l'Association des professeurs de sciences économiques et sociales. Quand on lui reproche notamment de mettre toutes les pensées économiques sur un même plan, du marxisme au néolibéralisme, lui revendique cette approche.
Je me fie toujours des discours qui qui critiquent le relativisme, parce que c'est souvent un moyen d'imposer sa propre idéologie face à celle des autres, de refuser le pluralisme. On est là pour faire comprendre la société actuelle, alors dans ses réussites, mais aussi quand même après une période de crise, dans les difficultés qu'elle rencontre.
Le plus ironique, c'est qu'à l'université, cette fois, la controverse est l'exact opposé. Les associations d'étudiants y dénoncent des cours d'économie beaucoup trop libéraux à leur goût. Ils demandent plus de pluralisme avec moins de mathématiques et un peu plus de sociologie.
Vous écoutez les matins de France Culture. Il est 8h10, la suite du journal Amélie Perrier. Et si les casques blancs syriens ont été distingués aux Oscars Hollywood cette nuit, leur pays n'est pas prêt de trouver une issue au terrible conflit qui a déjà fait plus de 310 000 morts depuis bientôt 6 ans.
Et oui, on ne parle toujours pas de transition politique à Genève, en Suisse, où se déroulent des négociations de paix depuis la semaine dernière. Le régime de Bachar al-Assad reste en position de force, soutenu par la Russie. L'opposition, elle, a perdu beaucoup de terrain sur le plan militaire et sur la scène diplomatique, elle se déchire pour désigner ses représentants. En tout cas, Damas, la capitale, on ne croit pas vraiment en une solution politique, comme nous le raconte notre envoyé spécial sur place, Christian Chenou.
Face aux divisions de l'opposition syrienne, le régime se frotte les mains. Les difficultés des anti-Assad pour mettre sur pied une délégation est pain béni pour Damas. Les opposants ne sont pas crédibles, martèle un journaliste de la télévision officielle qui ajoute « Ce sont des adolescents manipulés par des puissances étrangères, notamment la Turquie et les pays du Golfe. » Bref, conclut ce journaliste, cette fois-ci encore, il n'y aura pas d'avancée significative sur les bords du Léman. Dans la capitale syrienne, on considère presque les négociations de Genève comme un non-événement. Pour le régime, le plus important, c'est le cessez-le-feu, souvent malmené localement, y compris à Damas, où hier, plusieurs obus de mortier ont été tirés à partir des dernières poches rebelles encore actives dans la banlieue de la capitale. Pour les civils, ces attaques compliquent un peu plus un quotidien usant où s'égrènent coupures d'eau et d'électricité, sans parler des longues attentes aux stations-service pour se procurer un peu d'essence.
À l'étranger, encore l'inquiétude des salariés d'Opel en Allemagne. Le constructeur emploie 20 000 personnes outre-Rhin et l'offre de rachat par le français PSA fait planer maintenant une ombre sur leur avenir. Exemple à Eisenach, l'une des trois usines Opel du pays. C'est la correspondance de Cyril Sauvageau.
Ils se disent en sursis et impatients d'être fixés sur leur sort. Les 1600 salariés d'Opel à Eisenach n'ont pour l'instant reçu aucune garantie quant à leur avenir. Thomas travaille depuis 25 ans dans cette usine où s'effectue l'assemblage de l'Opel Corsa.
Pour l'instant, on nous a garanti du travail jusqu'en 2018. Mais après, aucune idée. Est-ce que le 4x4 Mokka sera assemblé ici comme c'était prévu? On ne sait pas, car cela demande de gros investissements. De toute façon, les ouvriers sont toujours les derniers informés.
S'il se confirme, le rachat par PSA pourrait remettre à plat tous les projets. Michael Militzer est chef d'entreprise. Il dirige l'association des sous-traitants à Automobile Thuringen et il craint le pire pour l'avenir du site.
C'est la plus petite des usines Opel en Allemagne. Bien sûr, personne ne souhaite qu'elle ferme. Cela peut aussi se passer autrement. On peut imaginer par exemple qu'elle soit dévolue à l'assemblage des véhicules électriques, mais il y aura besoin de beaucoup moins de personnel. C'est pour cela que, à mon avis, cette usine est la plus menacée de toutes.
L'industrie auto fait vivre 10 000 personnes dans la région. L'avenir d'Opel est donc un enjeu majeur, mais l'arrivée de Peugeot est aussi synonyme d'espoir pour une entreprise qui n'a plus fait de bénéfices depuis 17 ans.
Cyril Sauvageau. L'empreinte de l'industriel Vincent Bolloré, durablement inscrite sur ITL, marquée par des semaines de grève l'an dernier. La chaîne d'information continue, change de nom aujourd'hui. Elle devient CNews, c'est comme Canal+. Le chantier pour remettre debout la chaîne est titanesque, vu l'état dans lequel elle se trouve aujourd'hui, Abdelhakim Idrissi.
En 2016, la chaîne ITL a accusé un déficit de 25 millions d'euros, principalement suite à la grève historique qui a paralysé la chaîne pendant un mois. La direction espère diviser ce déficit par deux l'an prochain. Mais le défi est énorme. Plus de 100 salariés ont quitté ITL, principalement des journalistes. Depuis, seules une vingtaine de personnes ont été embauchées. Mais la direction s'est engagée auprès du CSA à remplacer tous les départs. Car en attendant, faute de journalistes, ITL n'a diffusé que peu de programmes en direct. Ainsi, au moment de l'attentat de Berlin en décembre, la chaîne proposait des rediffusions de vieux reportages, ce qui a provoqué la fuite des téléspectateurs vers les concurrents, BFM principalement, et de plus en plus vers LCI. Pour se relancer, la direction mise notamment sur de nouvelles recrues, telles que Rachid Arab, 62 ans, Patrick Poivre d'Arvor, bientôt 70 ans, et surtout en intervieweur du matin, Jean-Pierre Elkabbach, qui fêtera ses 80 ans en septembre prochain. Concernant enfin Jean-Marc Morandini, impliqué dans des enquêtes judiciaires et dont l'arrivée avait provoqué la grève, il ne devrait être à l'antenne qu'après la présidentielle avec une émission consacrée aux médias. En attendant, la direction annonce qu'elle continuera les expérimentations pour que la chaîne puisse monter en gamme.
Et une cinquantaine de journalistes partis d'Itélé ont de leur côté monté leur propre média. Cela s'appelle Explicite. Il vit sur les réseaux sociaux. Et hier soir, tard, la présentatrice Sonia Khirouni a annoncé, sur la toile toujours, que la levée de fonds indispensable à leur survie avait porté ses fruits. Les journalistes ont récolté plus de 165 000 euros et vont donc pouvoir continuer leur aventure inédite. Le temps de ce lundi, de la pluie et du vent, une perturbation est arrivée cette nuit de la Bretagne. Elle va se diriger vers l'est et le sud. Les températures ce matin, elles vont de 4 à 9 degrés en général, un peu moins en Auvergne-Rhône-Alpes. Cet après-midi, on attend 10 degrés à Quimper, 11 à Paris, 15 à Colmar, 16 à Marseille, 17 degrés à Lyon, 18 à Toulouse. Cette édition était préparée avec Mathilde Julien. C'est à vous, Guillaume Erner.